Donc, maintenant, passons à la deuxième partie de l'exposé. En fait, la situation a changé de manière radicale. Une fois, tant qu'on n'a pas trouvé où est le noyau dur de la rhétorique anti-environnementale, on est obligé à chaque fois de réfuter chaque argument dans une position qui ne peut être que défensive. Mais une fois qu'on a identifié ce noyau dur, une fois qu'on a décidé une fois pour toutes qu'au nom de sa propre humanité, on n'avait pas à entendre une dénégation de l'existence de ses propres souhaits comme des souhaits humains, à ce moment-là, la situation change, comme quand la marée, arrivée à marée haute, se met à redescendre. Alors, la question, c'est maintenant de voir quel est le paysage que l'on découvre une fois qu'on a désamorcé le noyau dur, en clouant son noyau dur, la rhétorique humaniste anti-environnementale. Par exemple, il s'agit de réinstruire, c'est-à-dire soi-même de reconfigurer, ou de reconstruire, c'est-à-dire de reconfigurer avec les autres participants à la discussion, un espace de discussion qui ne repose plus sur cette dissymétrie fondamentale et la violence de la négation de l'humanité de l'autre. Quelle écoute ? Comment écouter et réagir face à ces prises de parole qui, au nom de l'humanisme, refusent des attentes environnementales ? Quel est le lien entre ce discours humaniste et la dimension sectorielle de la gestion ? Quels sont les passages entre discussion et interaction stratégique et action conflictuelle ? Pour l'acteur d'environnement, est-ce qu'il faut, une fois pris conscience de ça, qu'il change sa stratégie d'argumentation ? Est-ce qu'il faut faire des remarques au chantre de la rhétorique humaniste anti-environnementale ou pas, une fois qu'on a compris comment fonctionne leur rhétorique ? Voilà les questions que je vais aborder dans cette deuxième moitié de l'exposé. D'abord, la première tentation, il faut y résister, c'est celle d'un rejet en miroir, qui consiste à dire « Vous pensez que je ne suis pas humain, c'est vous qui n'êtes pas humain. » Au fond, c'est la réaction des enfants, c'est celui qui dit qui est. Mais si on part sur ce procédé-là, on ne va pas beaucoup avancer. Deuxièmement, demander à des acteurs d'arrêter d'utiliser ce type d'argument, ça n'a pas forcément beaucoup d'intérêt. Tout ce qu'on va obtenir, c'est qu'ils arrêtent d'en utiliser les formes les plus flagrantes et qu'ils vont trouver des solutions de plus en plus indirectes pour imposer des dissymétries qui n'ont pas lieu d'être et imposer des symétries de la loi unique de leur propre logique. La réaction à la pression rhétorique ne peut être qu'une réponse rhétorique et c'est donc à celle-là qu'on va réfléchir. Il s'agit d'abord d'adopter un principe d'écoute, comme on écoute, une fois qu'on a compris, un principe de tri, comment on fait le tri entre ce qu'on accepte comme audible et ce qu'on ne veut pas entendre, et ouais, comment on utilise ce qu'on entend pour l'analyse, et puis un principe de réponse. Est-ce qu'on se tait ? Est-ce qu'on répond ? Si on répond, comment on répond ? C'est ça qu'on va voir successivement dans ce premier temps de cette partie de l'exposé. Quel principe d'écoute ? Évidemment, on est conforté dans l'idée d'être attentif à la dimension rhétorique. Deuxièmement, il est tout à fait capital de s'interdire de réduire la prise de parole de l'autre ou son écrit à uniquement sa dimension rhétorique. Pourquoi ? Parce que ça reviendrait au rejet en miroir. Ça reviendrait à dire « tes logiques sont seulement des logiques rhétoriques ». Mais donc, ce n'est pas des logiques humaines. Ce n'est pas non plus des logiques de terrain, des logiques qui sont enracinées dans une expérience. Donc, il n'y a pas de raison de faire à ces autres ce qu'on ne veut pas qu'ils nous fassent. Donc, il faut être attentif à la rhétorique, mais ne pas réduire le discours de l'autre à la rhétorique. Il faut adopter une écoute à au moins deux niveaux. Troisièmement, il faut prendre conscience du fait que l'écoute, elle doit être pensée en fonction de ce qu'on attend de l'interaction. Écouter l'autre, c'est déjà avoir pris position et agir. Et donc, le principe d'écoute, il doit être fondé sur une clarté vis-à-vis de son propre projet. Écouter, c'est déjà agir. Et donc, je dois savoir quelle est mon action pour fonder une écoute qui puisse vraiment fonctionner. Et puis, évidemment, il faut être attentif aux personnes et aux situations parce que il y a toujours beaucoup de non-dits dans les situations, et parce que si on veut que l'échange soit un échange humain, c'est d'abord des personnes et des situations. Dans mon livre de 92, j'avais proposé un principe de tri qui aujourd'hui me paraît un peu fruste, qui consiste à mettre d'un côté les faits et de l'autre côté la poésie, c'est-à-dire la tentative de faire sentir des trucs au lecteur. Aujourd'hui, je proposerai plutôt le principe suivant, qui consiste à ouvrir trois niveaux d'écoute en même temps, essayer de saisir quel est le travail de l'écouté ou de l'auteur du texte pour influencer. Dans ce qu'il dit, qu'est-ce qu'il fait pour influencer? Deuxièmement, écouter chez lui le travail de l'expression, c'est-à-dire, dans ce qu'il dit, qu'est-ce qui me permet de toucher du doigt des choses importantes pour lui ou des choses importantes chez lui? Et troisièmement, dans ce qu'il dit, quels sont les matériaux ou les éléments que ça apporte pour mon propre projet? Donc moi, ce que je propose, c'est une géométrie de tri qui s'ordonne autour de ces trois plans d'écoute. Il est évident que ce principe de tri se décline méthodologiquement de manière complètement différente selon les situations et qu'il est différent selon le type de projet qu'on défend. En tout cas, il s'ancre clairement dans le fait que chacun doit assumer ses propres projets et ses propres attachements. L'écouté doit assumer le fait qu'il exprime ses projets sur l'autre par ce qu'il dit. Et celui qui écoute doit assumer le fait que son écoute, elle est déjà orientée par un projet. Il n'y a pas d'écoute neutre, ça n'existe pas des écoutes neutres. Il est important de voir aussi que ce principe de tri rejoint la négociation raisonnée de Fischer et Uri, qui nous est tous familière, et en particulier un de leurs principes qui est souvent mal compris ou galvaudé, qui consiste à traiter séparément les questions de personne et l'objet du différent. Il est important d'avoir une écoute qui permet cette séparation et qui tient ouvert. Alors, ouais. Maintenant, on écoute, on trie, on entend des choses. Quel principe de réponse? Là encore, ça dépend de la situation. La réponse, elle est libre, mais elle n'est pas libre au sens où on peut répondre n'importe quoi. Parce que la réponse dans la discussion, elle est profondément impliquée dans une situation. Si vous êtes en train d'essayer d'obtenir un contrat de consultant sur une aire protégée et que vous discutez avec le bailleur de fonds, agence de développement, qui va peut-être vous financer votre projet sur l'aire protégée, eh bien, vos réponses à ces arguments vous impliquent de manière directe en termes de prise de risque, en termes de confrontation, dans toutes sortes de termes. Et par ailleurs, la réponse, elle est en partie inconsciente. Par exemple, il n'est pas difficile d'avoir peur. Quand on est confronté à des gens qui disposent de la force ou des gens qui ont pu polir leurs arguments pendant des années pour ensuite vous les asséner, il est normal que la réponse soit contingente à une sorte de rapport de force humain et immédiat. La réponse constitue une action. Elle est difficile comme une action, et elle a une portée stratégique comme toute action. Alors faut-il que les acteurs environnementaux révisent leur choix stratégique qu'on a vu dans la première partie de l'exposé? Leur choix stratégique actuel, c'est essentiellement l'adaptation et la neutralité. L'analyse que je propose ne conduit pas à une révision radicale. Elle ne conduit pas à proposer de répondre par une offensive rhétorique. Voilà ce qu'elle dit. Elle débouche sur le fait de dire qu'il faut réexaminer la rhétorique d'adaptation dans le sens suivant. Par exemple, un directeur de parc national qui est très motivé pour la protection de la forêt et de la faune, et qui a adopté, je le vois sur le terrain, le discours qui consiste à dire c'est important de faire du développement durable, etc., que les populations aient leur place, qu'on fasse des procédures participatives. Qu'est-ce qu'il veut dire vraiment? Dans une partie des cas, ce discours est un discours adapté, c'est-à-dire que son objectif reste le même. Il est effectivement un exécutant compétent du mandat de gestion et il est rentré dans une négociation. Dans d'autres cas, le même discours peut recouvrir le fait d'avoir lâché complètement les objectifs de biodiversité et finalement d'adopter un masque de discours négociés pour couvrir des pratiques qui sont des pratiques unilatérales de développement, par exemple. Donc, la rhétorique d'adaptation, il faut qu'elle soit resituée dans ces contextes d'argumentation échangée et dans ces contextes d'interaction stratégique pratique entre les acteurs. En ce qui concerne la rhétorique de neutralisation, celle-là aussi, elle reste extrêmement légitime et efficace puisqu'elle permet de fonder, par exemple, une immense majorité du travail technique. On ne se demande pas, si on veut garder des eaux souterraines où il n'y a pas trop de nitrates et de pesticides, on ne se demande pas si c'est pour les hommes ou si c'est pour économiser de l'argent à la compagnie de traitement des eaux potables ou si c'est pour cela. À un moment donné, on se fonde sur le fait qu'on veut de l'eau propre. Ceci étant, cette neutralisation, elle aussi, elle est à revoir en fonction des situations stratégiques et pratiques. En revanche, la nouveauté, c'est de dire qu'on ne peut pas se contenter de ces deux premières stratégies ou de ces deux premières réponses rhétoriques et qu'il faut, d'une manière ou d'une autre, parfois, rouvrir un front d'expression des attachements écologiques qui assume ou qui exige qu'on considère le caractère irréductible des attentes environnementales. C'est ce que j'ai appelé l'expression du désir de nature. Alors, je vais vous faire quatre propositions différentes pour ouvrir ce front. Elles sont très différentes les unes des autres. La première, elle est proposée par Jean-Paul Sartre. Ça aurait été dommage dans une conférence qui s'appelle « Est-il un humanisme ?» de ne pas le citer. Voilà ce qu'écrit Jean-Paul Sartre à Camus. « Mais dites-moi, Camus, par quel mystère ne peut-on discuter vos œuvres sans ôter sa raison de vivre à l'humanité ? Par quel miracle les objections que l'on vous fait se changent-elles sur l'heure en sacrilège ? Il est vrai que vous êtes mandaté. Vous parlez, dites-vous, au nom de cette misère qui suscite des milliers d'avocats et jamais un seul frère. Pour le coup, nous rendons les armes. S'il est vrai que la misère soit venue vous trouver et vous ait dit « Va et parle en mon nom », il ne reste qu'à se taire et à écouter sa voix. Seulement vous qui parlez en son nom, êtes-vous son avocat, son frère avocat ? Et si vous êtes le frère des misérables, comment l'êtes-vous devenu ? Puisque ce ne peut être par le sang, il faut que ce soit par le cœur. Mais non, puisque vous choisissez vos misérables. Et Sartre conclut en substance, vous êtes un bourgeois comme nous, vous êtes bien un avocat, et si vous vous présentez comme frère, c'est pour faire pleurer le jury. Donc, désormais, chaque fois que j'entends quelqu'un m'expliquer que lui, il est humainement du côté des pauvres, de toute population qu'on va pouvoir scander dans une polarisation pour m'expliquer qu'il y en a un qui est le frère des misérables, alors qu'en gros il a le même statut, qui gagne autant et qui vient du même endroit, je souris et je pense à cette citation de Sartre. J'irai pourtant pas jusqu'à recommander de lire la citation de Sartre à chaque fois qu'on essaye de vous faire pleurer en vous expliquant qu'on travaille pour les pauvres et que ça mérite bien un salaire. Alors, deuxième stratégie de face, c'est celle que nous avons suivie avec nos écrits sur la SGE depuis pas mal d'années maintenant, et qui consiste à dire, au fond, il faut assumer ses attachements, et nous, on va écrire une littérature scientifique dans laquelle on est clair sur nos attachements. Et donc, dans les articles, dans les textes et tout, on explique, on dit voilà, toute analyse se fonde sur un point de vue. Ce point de vue, il part d'un attachement, il pose des hypothèses qui, de toute façon, abandonnent la neutralité dès le départ. Donc nous mettons nos hypothèses sur la table, nous construisons là-dessus nos analyses. Et puis, évidemment, notre espoir, c'est de faire réagir et puis de désamorcer l'échange stratégique en miroir, que personne ne puisse nous dire « vous ne dites pas pour qui vous roulez ». On s'aperçoit avec intérêt que ça suscite des incompréhensions et des résistances assez virulentes, que même quand on écrit Pourquoi on roule? Les gens ont tellement l'habitude que tout le monde se cache derrière des objectifs élevés pour aboutir à de bas intérêts. On essaye de voir ce qui est derrière nos propres attachements. En fait, cette posture, elle revient à instaurer une situation analytique de fait. Sa limite, c'est essentiellement les moyens d'interpellation. C'est-à-dire que tout dépend de la situation de dialogue et elle peut tout à fait conduire à des formes de marginalisation ou des grandes difficultés dans la discussion. Ça nous ramène directement à nos échanges scientifiques actuels avec nos collègues. Ensuite, il y a une troisième stratégie qui consiste à dénoncer les affichages ou les écrits agrocentrés. On dispose là-dessus d'un exemple très éclairant, c'est la polémique qui a opposé Farid Benhamou, qui est un doctorant de notre groupe, à trois chercheurs de l'INRA, Devers, Murray et Chabert. Devers avait écrit dans le courrier de l'environnement de l'INRA un article qui expliquait que les loups étaient contre la biodiversité. Pourquoi ? Parce que l'élevage ovin extensif étant bon pour la diversité et le loup étant mauvais pour l'élevage ovin extensif, le loup était mauvais pour la biodiversité. Et Benhamou a choisi une réponse qui est très différente des deux précédentes, qui a consisté à écrire un article en disant « Mais en fait, quand on regarde, c'est pas toujours vrai que l'élevage est bon pour la biodiversité. » Et il y a un certain nombre d'aspects de l'élevage ovin de montagne en France qui sont franchement pas bons pour la biodiversité. La réponse a été d'une extraordinaire violence. C'est-à-dire que Devers, Murray et Chabert se sont chacun fendus d'un papier qu'ils ont envoyé au courrier de l'environnement de l'INRA. Le courrier de l'environnement, devant la violence des propos, ne les a pas publiés, mais les a mis sur le site internet. Et c'est extrêmement éclairant de voir le registre sur lequel se situe la réponse à Farid Benhamou. Cette explosion d'indignation et de violence, elle tient à un point très précis qui conforte les analyses que je vous ai proposées, c'est tout simplement parce qu'une fois qu'on a lu l'article de Farid Benhamou, il n'est plus possible que quelqu'un se présente à la fois comme avocat des filières ovines de montagne et comme défendant de manière neutre l'environnement, la biodiversité et le développement durable en montagne. Ça n'est plus possible. Une fois qu'on a lu cet article, la scène apparaît nécessairement comme un dialogue entre des gens qui sont des avocats de la biodiversité, des gens qui sont des avocats de la filière ovine, et la tentative soit de trancher, soit d'arriver à des combinaisons entre les deux. Or, le business de ces chercheurs-là, c'est précisément fondé sur l'idée qu'ils sont à la fois les défenseurs de la filière ovine et des intervenants neutres et les meilleurs porte-parole de la biodiversité. Leur position et donc leur rente deviennent intenables, d'où la violence leur réaction. Et ce qui est intéressant, c'est quand on regarde l'article initial de Devers, il paraît en première lecture un peu anodin, mais je l'avais lu, il m'avait fait bondir, et il avait fait bondir aussi Farid Benhamou. Et en le relisant, j'ai vu où est le noyau dur, le petit kyste qui contamine tout et qui en fait un discours humaniste anti-environnemental. Il déroule une page et demie de raisonnement, et ensuite il dit « on ne peut pas défendre sérieusement la cause du loup, sauf à moins bien sûr, voilà, ça commençait par « à moins bien sûr » de prétendre faire une hiérarchie entre les espèces. Or, en quoi consiste l'attachement des environnementalistes ? Il consiste à être attaché à certaines espèces. Et la phrase « à moins bien sûr » est un déni total de légitimité. Et cette phrase, elle passe inaperçue dans l'article. C'est ça, concrètement, le travail qui consiste à chercher le noyau dur. À quel moment, pourquoi ça me faisait réagir ? Eh bien, parce que, de manière discrète, la légitimité d'avoir mes attachements était déniée dans son principe même. C'est-à-dire qu'il est absurde d'être environnementaliste. C'est pas dit comme ça, mais c'est ça que ça dit, et c'est ça qu'on entend, et c'est ça qui fait le rapport de force, la violence de cette rhétorique humaniste. Et quatrième proposition, c'est celle à laquelle je m'arrête pour l'essentiel, c'est-à-dire qu'en dehors de cette conférence qui relève plus de la position sartrienne, Moi, je propose tout simplement de ne plus y croire. C'est-à-dire que moi, ça ne me dérange pas que des chercheurs continuent à dire que les questions environnementales ou des acteurs ou les, des intervenants de la filière, de diverses filières viennent dire « Mais oui, c'est, il faut choisir entre les poissons et les hommes, sur les barrages par exemple, il faut choisir entre des pauvres et des écolos urbains, etc. » C'est simplement que moi, je n'y crois plus. Et que j'ai des repères clairs qui me permettent de laisser dire ça en disant, ben voilà, eux disent ça, leur discours ne fonctionne plus. Il est comme une rivière détournée, la géométrie de son lit est toujours là, mais l'eau, elle va passer désormais ailleurs. Donc, face à ça, chacun de choisir sa réaction pour réorienter vers une discussion argumentée, pour assumer le fait que le débat est un débat agonistique, c'est-à-dire conflictuel. Et puis, maintenant, ce qu'il faut, c'est qu'on examine les implications de la situation pour clarifier la discussion. D'abord, j'ai laissé en suspens un point qui est capital et qui est l'examen un peu plus précis du lien entre le discours, disons la rhétorique dite humaniste, et le discours agrocentrique. Qu'est-ce qui lie cet affichage d'universalité humaniste avec une logique profondément sectorielle? Alors quand je dis agrocentriste, c'est en prenant l'agriculture dans un sens large qui inclut à la fois les filières de production forestière et les filières halieutiques. Et dans cet exercice, je ne suis pas le seul, puisque j'ai d'abord, ça répond à la prétention de la pensée agronomique à devenir la loi unique, mais ça correspond aussi, par exemple, à la prise de position récente de l'INRA dans son appel d'offres sur agriculture et développement durable, qui définit l'agriculture comme agriculture plus forêt, plus pêche. C'est un élément qui montre encore cette uniformisation des raisonnements sous une seule loi. D'abord, c'est une expérience courante pour quiconque a déjà fait des enquêtes auprès d'agriculteurs, en particulier sur des thèmes d'environnement, qu'il y a un monde, en tout cas un espace énorme, entre la parole de l'agriculteur et le discours agricole. J'ai fait beaucoup d'enquêtes par entretien dans des milieux agricoles en France. Et entre la réunion en préfecture avec le syndicalisme agricole ou avec la DDA ou avec l'INRA, l'agonisme de cette réunion-là, et le type de dialogue qui se noue avec les agriculteurs chez eux quand on discute avec eux, il y a un énorme espace. Dans le premier cas, chez l'agriculteur, c'est une personne qui parle et à aucun moment la question ne se pose de savoir si vous qui buvez le café en discutant avec eux êtes aussi une personne. C'est clair dès le départ pour tout le monde. Dans le deuxième cas, en préfecture, eh bien, ça n'est pas l'homme qui parle, c'est l'homme qui sert de ponctuation au discours. C'est l'homme qui sert de référentiel abstrait. Référentiel abstrait qui est un point d'appui que l'émetteur du discours, le DDA qui vous parle, ou le syndicaliste agricole, utilise pour appuyer sa propre rhétorique, son propre levier, son propre projet, et pour faire penser que les attachements qu'il défend sont universels, en ce sens qu'il réfère à l'homme avec un grand H. Bon, on pourrait mettre une note de bas de page sur le fait que c'est l'homme qui est cité, et non pas l'être humain. Je pense que c'est une dimension réelle du dossier, mais je ne viendrai pas là-dessus. La personne qui tient le discours se cache derrière l'homme, entité abstraite, humaniste. Elle cache ses attachements, ses projets, ses propres intérêts derrière ça. Et la personne que le discours concerne, l'agriculteur, est aussi caché derrière l'homme. C'est-à-dire, quand vous parlez avec le représentant de la filière, l'agriculteur, quelque part, il est caché derrière un stéréotype d'agriculteur qu'on vous oppose. Au fond, l'agrocentrisme, on peut le représenter comme ça. Le cercle extérieur, c'est la frontière de la filière. C'est la frontière qui sépare le secteur agricole du reste du monde. Et les intervenants de la filière qui défendent le territoire de développement agricole ont les yeux tournés vers l'agriculteur. Par construction, ils lui accordent une plus grande humanité. L'agriculteur est plus humain. Tout le discours du secteur agricole est construit sur l'idée que l'agriculteur est plus humain que les autres. J'ai parlé des logiques rhétoriques, mais je pense qu'il y a un élément supplémentaire qui est une forme de malaise que partagent toutes les personnes qui vivent de l'agriculture sans toucher la terre eux-mêmes, c'est-à-dire sans faire eux-mêmes le travail agricole. Et donc, quelque part, à partir du moment où on se justifie du travail des agriculteurs et où soi-même on est dans cette relation ambiguë sur le revenu, sur l'origine, etc., vis-à-vis de ceux qui font vraiment le travail agricole, on est tenté de leur prêter un statut d'humanité particulière et de l'utiliser pour prêter à ceux qui ne sont pas dans la filière agricole une humanité complètement réduite qui met de côté l'humanité propre des ingénieurs, des juristes, etc., du secteur agricole, en créant une dissymétrie dans laquelle, en tout cas, ils sont plus humains que des écolos. Peut-être qu'ils sont moins humains que des agriculteurs, mais ils sont plus humains que des écolos. Donc, cette rhétorique humaniste, elle s'articule de manière complète avec les logiques sectorielles. Ça n'est pas juste un hasard, juste un acteur sectoriel qui, parmi d'autres arguments, prend un argument humaniste. Elle est à la base de la construction même de la perception du secteur par lui-même. Je vous propose un marqueur qui, quand on écoute les discours, permet d'identifier ce genre de positionnement. C'est la phrase « les ne sont pas responsables ». Par exemple, quand on évoque des conflits entre agriculture et environnement en France, la phrase « en tout cas, les agriculteurs ne sont pas responsables, c'est la politique agricole qui leur impose, etc. » est un marqueur certain de l'affiliation à la filière agricole et c'est un définisseur de la personne qui parle comme étant impliquée dans la filière agricole. De la même façon, la phrase « les pauvres ne sont pas responsables » phrase célèbre qui donne lieu à des textes classiques aujourd'hui, cette phrase-là marque l'appartenance à une filière développementiste et tiers-mondiste et installe une barrière qui fonde les autres interlocuteurs, les autres attachements comme moins humains. Et donc, il y a un lien très fort entre l'apparente universalité du discours humaniste opposé aux attentes environnementales et la construction même du caractère sectorialisé des filières qui utilisent cette rhétorique. Au fond, dans mon écoute de cette rhétorique maintenant, puisque elle ne m'atteint plus dans mon humanité de revendicateur environnemental, elle apporte de l'information. Au fond, le discours, c'est l'homme avec un grand H, c'est un opérateur d'organisation. D'abord, c'est une donnée anthropologique. Beaucoup d'anthropologues qui font des monographies sur des peuples notent que le mot qui est utilisé par telle tribu pour désigner, bah, c'est les hommes. Par exemple, quand j'étais étudiant, j'avais été frappé par le bouquin de Clastre sur la société sans État. Et c'est effectivement un des premiers éléments où on apprend que ces chasseurs-cueilleurs, bah, eux, ils se désignent comme les hommes. Puis il y a le reste du monde. Donc c'est une donnée anthropologique que... on a tendance à désigner comme les hommes, et ça crée un effet organisateur qui justement nous sépare des autres hommes. C'est intéressant. Donc l'opérateur, l'homme, comme concept général, c'est un opérateur entre nous et eux. Eux sont moins H, et nous, on est plus H. Mais en étant, du coup, quand on dit plus homme, ça veut dire aussi moins eux, ou plus nous. Donc, chaque fois que j'entends c'est plus pour les hommes, eh bien, j'entends vous, nous, eux, nous. Du coup, il devient possible d'accepter ce clivage chez l'opérateur. Moi, ça ne me dérange pas que des gens aient des logiques sectorielles. Mais, en revanche, ce qui m'importe, c'est qu'ils les assument. Et donc, une fois qu'on a compris que ce discours humaniste était un opérateur d'organisation, on peut l'utiliser pour petit à petit conduire l'opérateur de différenciation à assumer ses propres engagements, ses propres attachements, ses propres stratégies de composition ou d'imposition. Et du coup, on récuse radicalement la prétention à l'universalité d'une logique au nom de l'homme. Elle reflète, elle exprime, elle est l'opérateur même de la logique sectorielle. Donc là, je vais peut-être passer rapidement. La question clé, finalement, quand on est en discussion autour d'un problème comme un problème d'environnement ou de gestion de territoire, c'est de faire rencontrer des séries de sens et des attachements différents, des personnes qui portent des séries de sens et des attachements différents. Dans cette rencontre, il y a une question clé. En quoi sommes-nous différents? En quoi sommes-nous pareils? Et c'est vrai que lorsque la filière élevage est en discussion avec la filière biodiversité sur la gestion d'un espace naturel, c'est une question clé. En quoi sommes-nous pareils? En quoi sommes-nous différents? En quoi nos intérêts convergent? En quoi ils divergent? L'instruction de cette question est complètement sapée quand il y a déni d'altérité, c'est-à-dire quand ne sont pas reconnues l'autonomie et la légitimité complète de chacune des deux filières. J'ai déjà démontré ça tout à l'heure. Mais du coup, en application pour les problèmes agricoles et environnementaux, ça veut dire que la reconnaissance de l'altérité réciproque des logiques agricoles et environnementales est la condition même pour que puisse avoir lieu une discussion et une construction ouverte et viable de l'interface entre agriculture et écologie. Cet espace d'articulation, il a quatre cases. Il y a une logique agricole non environnementale, une logique environnementale non agricole. De leur rencontre naissent des intégrations de l'environnement dans l'agriculture et des intégrations de l'agriculture dans l'environnement. Toute logique qui tend à scotomiser ce tableau, en lui enlevant une case ou une ligne, empêche, ferme d'avance l'espace de négociation sur agriculture et environnement. Maya m'a raconté une anecdote très amusante sur les négociations dans la constitution des établissements agricoles avec la proposition d'une filière élevage et développement durable. Et elle pose la question, mais dans quelle filière se feront les travaux sur l'élevage pas durable? Réponse, il n'y a pas d'élevage pas durable. Il n'y a plus d'espace de sens dès qu'on accepte cette logique-là. Donc, on est bien sur un enjeu rhétorique, stratégique et théorique. Le refus de subir des attributions sauvages de la part des gens qui sont dans d'autres filières. La question de la différenciation des rôles pratiques dans la gestion entre agricole et environnemental. Cette question est absolument centrale pour la politique, la gestion et l'administration des questions de nature et d'espace rural. Et puis évidemment, ça débouche sur une question théorique. Quelle est la légitimité et quelles sont les modalités de différenciation et d'articulation entre perspectives environnementales et agricoles? Vous avez vu dans les différentes écoles que cette question était majeure et l'ASGE se présente finalement comme une théorie qui est faite pour ce débat. Les autres théories participent à ce débat. Elles ont des positions très fortes et des apports très intéressants dans ce débat. L'ASGE est construite pour ce débat, pour qu'il puisse avoir lieu. Et tout ce que j'ai dit jusque-là montre que pour qu'il puisse avoir lieu, il faut déjà un véritable travail. Alors, maintenant, on va repasser à la pratique et puis ensuite quelques mots sur les perspectives de recherche. C'est bien d'avoir pigé qu'on pouvait refuser en bloc la dissymétrie complète qui dénie l'humanité aux revendications environnementales. Maintenant, au quotidien, c'est un travail tous les jours pour réapprendre et puis pour désapprendre certains réflexes. Donc, là encore, je reviens sur ce que j'ai dit au début, il y a des ressources, il y a de la littérature sur la rhétorique, c'est toute une dimension d'apprentissage qui aujourd'hui est complètement négligée dans l'enseignement supérieur, qui est très négligé dans les recherches et qu'il faut réouvrir parce qu'on reprend conscience de l'importance que ça peut avoir. Sur un plan pratique, je vais vous faire une proposition parmi d'autres possibles, mais une, et je vais vous montrer les conclusions qu'on peut en tirer. Ma proposition, elle découle du constat que l'affichage grand H est en fait un opérateur d'organisation sectorielle. Elle consiste... Mais non, je vais trop vite là. Alors, je reviens sur le fait que la rhétorique, c'est un plan de lecture. Comme je l'ai montré tout à l'heure, il n'est pas acceptable de le choisir comme seul plan de lecture. Sans ça, on nie à l'autre ses attachements, puisqu'on le prend d'emblée, par hypothèse, comme enfermé lui-même dans un cercle rhétorique. Et donc, ça reviendra à un acte de rejet de l'autre. C'est donc à utiliser avec beaucoup de modération, et c'est ce qui explique que dans mon exposé sur le loup, je ne me sois pas attaqué à des textes précis, mais que j'ai montré des logiques qui sont à l'œuvre et qui sont toujours mélangées à d'autres logiques humaines cette fois-ci et pas rhétoriques. Je vais quand même faire deux exceptions parce que pour des fins d'illustration, c'est important de trouver des textes qui montrent clairement cette rhétorique humaniste à l'œuvre et de ne pas me retrouver en situation de critiquer des discours dont on pourrait me dire qu'ils n'existent pas. Il y a deux textes, à mon avis, qui peuvent être mis sur la table dans cette optique-là. Le premier, c'est le livre de Rossi qui s'appelle « L'ingérence écologique, environnement et développement rural du Nord au Sud ». Ce texte se présente d'emblée comme une attaque totale contre tout le discours environnemental pris en bloc et jugé comme inacceptable en bloc. Et ce texte est un véritable manuel ou un formulaire de rhétorique anti-environnementale. Tous les arguments, tous les ficelles de cette rhétorique humaniste anti-environnementale sont déployés de manière très intéressante dans ce livre, qui par ailleurs n'est pas inintéressant à lire. Et puis le deuxième texte, qui est un texte phare de cette rhétorique humaniste anti-environnementale, c'est le rapport préparé par l'IFB pour le Congrès international des aires protégées à Durban, ça devait être il y a 3 ans. Ce texte s'appelle « Des espaces protégés pour concilier conservation de la biodiversité et développement durable ». La perte de sens apparaît déjà dans le titre. On croyait que le développement durable, ça consistait à concilier le développement, l'économie et l'environnement, en particulier la biodiversité. Mais maintenant, on nous dit qu'il faut concilier l'environnement avec le développement durable. Quelque part, il y a eu une capture de la logique environnementale par la logique du développement. Et si vous lisez ce rapport, qui est disponible sur Internet dans les cahiers de l'IFB, vous verrez s'accumuler les figures rhétoriques agressives et déshumanisantes vis-à-vis de la revendication environnementale. Et vous verrez, au fond, que lorsque, au nom de la logique agro-développementiste, des gens se font eux-mêmes les porte-parole de ceux-là même qui refusent d'entendre, c'est-à-dire les espérances environnementales, les attentes environnementales de certains, eh bien, à ce moment-là, on est à la fois dans la violence verbale et dans la perte de sens. Je vous recommande la lecture de ce document. Alors, quelques figures à titre d'exemple. Maintenant, imaginons, vous vous lancez dans la lecture, où vous écoutez des exposés par des gens qui, en partie, adoptent des attitudes rhétoriques humanistes anti-environnementales. Je vais simplement là vous décliner un geste de tri qui est le suivant, qui consiste à dire, voilà, chaque fois que j'entendrai « pour l'homme », je traduirai par « pour moi », « pour nous », « pour notre filière » ou « pour les intérêts que je défends ». Ça, donc, c'est un des procédés analytiques que je vous propose pour refaire du terrain, maintenant qu'on a un appui solide, qui est de dire « on peut avoir des attentes environnementales ». Alors, j'ai pris quelques formules qu'on trouve très souvent dans la littérature actuelle sur environnement et développement rural. Il n'est pas acceptable d'avoir des politiques d'aires protégées qui excluent l'homme. Alors, qui exclut l'homme ? Ça peut se traduire qui impose des restrictions à certaines activités agricoles, forestières et de chasse. Quand on va sur le terrain, on s'aperçoit qu'une fois sur deux, quand on lit « exclut l'homme », en fait, ça veut dire que certaines pratiques sont interdites. J'ai toujours souri en voyant qu'il y a des chercheurs qui étaient convaincus que dans les zones centrales des parcs nationaux français, il n'y avait pas d'activité humaine, pas d'élevage. Donc, traduire « exclut l'homme » par « impose des restrictions à certaines activités agricoles, forestières et de chasse ». Autre grand classique ou lieu commun de la rhétorique qu'on entend souvent aujourd'hui, on ne peut plus aujourd'hui tenir une conception fondée sur des protections strictes. Qu'est-ce que c'est qu'une protection stricte ? Eh bien, c'est une conception qui envisage que sur certains espaces, les filières de développement agricole et rural puissent ne plus exercer le leadership dans l'action publique et la mise en œuvre des projets. Autre grand discours qu'on entend aujourd'hui, qui fleurit sur les tribunes, l'opposition entre agriculture et protection de la nature est dépassée. Traduire, il n'y a plus d'autre raisonnement légitime qu'un raisonnement agronomique sur les questions de faune, flore et milieu. Ou bien encore, raisonnement qu'on entend beaucoup aujourd'hui dans les politiques sur la biodiversité en France, la biodiversité, c'est l'homme dans son milieu. Il faut sortir des petites fleurs et des petits oiseaux. Traduire, le vrai acteur de la biodiversité, c'est la filière agro-développementiste. autre grand classique dans la littérature académique actuelle. On a dépassé que récemment une conception fondée sur la nature exceptionnelle pour aboutir à une prise en compte de la nature ordinaire. Alors là, il y a plusieurs figures rhétoriques qui sont combinées. Il y a le avant-après. Donc les autres, c'est avant, nous, c'est après. Donc ça veut dire rejetons les environnementalistes dans le passé. Privons-les de modèles. Pourquoi ? Tout simplement parce que dans toute série de sens, ce qui donne sens à la série, c'est les pointes de la série. Ce qui donne sens au travail du technicien en élevage laitier, c'est les quelques exploitations pilotes qui tirent tout le secteur laitier d'un espace rural et qui permettent de se situer, qui donnent sens à l'effort. Or, vouloir enlever à une série ces points d'exception ou de vitrine, c'est vouloir enlever sens à toute la série. De la même manière, s'attaquer aux aires protégées, désignées comme espace pilote de la série environnementale, c'est vouloir priver d'établissements concrets toute la filière dans l'optique que j'ai pointée tout à l'heure, de réduction de tout l'espace à un seul gouvernement. Et puis, si vous lisez ces textes, je vous conseille aussi de cueillir comme des fleurs dans une prairie toutes ces qualifications stéréotypantes et polarisantes, l'environnementaliste citadin, riche, blanc, du Nord, masculin, scientiste, ignorant du milieu réel, ignorant de la vie des gens, etc. etc. La diversité de ces procédés est remarquable et on peut prendre un très grand plaisir à lire les textes quand on y est sensible, qu'on les entend tilter comme des petites... vous savez, dans la musique baroque, on rajoute des ornements. Eh bien, dans la littérature académique ou administrative sur l'environnement, on rajoute toutes ces petites qualifications qui permettent de guider les gens vers les bonnes conclusions. Donc, écoutons la rhétorique. La rhétorique nous informe sur l'espace d'action intersectoriel agriculture-environnement. Pour terminer, quelques pistes pour la recherche dans le cadre de RES et dans le cadre du module, pour situer par rapport aux relations entre la théorie de la justification, les théories de l'acteur réseau, l'analyse stratégique de la gestion de l'environnement. Évidemment, si je vous ai parlé du loup, ce n'est pas sans penser au loup et à l'agneau de La Fontaine. La raison du plus fort est toujours la meilleure, nous dit La Fontaine, un peu comme Bourdieu. Et donc, il y a une ligne de pensée qui passe sur cette position-là. Et puis, il y a une autre ligne de pensée qui passe sur la force de l'évidence. C'est-à-dire, quels que soient les rapports de force, l'évidence rationnelle ne peut pas être ignorée. Donc, de Descartes à Boltanski et Thévenot, on peut avoir cette ligne-là. Ce que je vous propose de considérer, c'est qu'au fond, il y a une circularité entre la raison du plus fort et la raison la meilleure. Et c'est sûr que quand on est plus fort, on peut construire de la raison meilleure. Par exemple, aujourd'hui, le secteur agricole dispose de la quasi-totalité des moyens de recherche sur l'espace rural et l'environnement. Il n'existe aucun établissement public de recherche autonome sur l'environnement. Ben, la raison du secteur, comment dire, la force du secteur agricole et sa maîtrise des moyens financiers, institutionnels et humains de recherche fait que les discours centrés sur la filière agricole dans la recherche sont beaucoup plus forts. De la même manière, la raison la meilleure peut aussi bloquer les tentatives de rapport de force. Précisons un petit peu le cercle pour voir qu'en fait, il y a deux cercles. Il y a un cercle de la force dans lequel un acteur plus fort agit de manière stratégique. Du coup, en faisant ça, il rend l'acteur faible encore plus faible et l'affaiblissement de l'acteur faible rend l'acteur fort encore plus fort. C'est la domination à la Bourdieu. Dans le cercle de la raison meilleure, par exemple la théorie scientifique forte, rend le mauvais raisonnement plus faible et en s'affaiblissant, il laisse plus d'espace pour le raisonnement fort. Ce qui est intéressant de voir, c'est qu'entre ces deux anneaux logiques, entre ces deux anneaux, l'anneau logique en bleu et l'anneau stratégique en rouge, en réalité, il y a des passages ou des séparations. Donc certains auteurs, théoriciens, nous disent qu'il faut séparer les anneaux. Bourdieu va nous dire le rapport n'est que de force. Ne nous racontez pas que la raison égalise les choses, que l'éducation égalise les choses, etc. D'autres vont nous dire l'évidence de la raison balaye tout. Mais, en fait, on passe d'un anneau à l'autre, comme dans une bande de Möbius qui a deux côtés, mais ou qui n'a qu'un seul côté, et qui fait que quand on passe le long de la bande, on passe subrepticement d'une certaine façon d'un côté à l'autre. C'est la position de la tour. Les raisons renvoient aux forces, et les forces aux raisons. Le scientifique crée une alliance de raisons qui mobilise des forces. En faisant ça, il crée une force qui écrase d'autres raisons, etc. Et donc, si dans cette optique-là, on s'aperçoit que la séparation des forces n'est qu'une perspective particulière. Par ailleurs, une fois qu'on a compris qu'on était dans une bande de Möbius, il faut ponctuer. Et on peut ponctuer soit en disant « d'accord, les raisons renvoient aux forces et les raisons et les forces aux raisons », mais il importe de ne pas laisser le poids des forces l'emporter sur celui des raisons. C'est la position, je pense, de Boltonski et Thévenot. Ou bien, il importe de ne pas laisser le poids des raisons cacher le jeu des forces. C'est clairement ma position dans cet exposé et plus largement dans la SIE. Donc, il est important de voir que c'est une question de ponctuation et de moment. C'est pour ça que dans le titre sur « La raison du plus fort est toujours la meilleure », c'est le « toujours » qui pose question. Et donc, non, on est dans une analyse où c'est une question de moment et où chaque ponctuation est nécessaire comme étant une des perspectives d'analyse sur les situations de force et de raison. Encore faut-il considérer, et ce point est problématique, que là, je n'ai raisonné que sur deux dimensions, l'anneau logique et l'anneau stratégique. Rajoutons simplement un autre anneau. Imaginons, et c'est le cas de notre société, qu'on soit dans une situation où l'affichage de la faiblesse rend plus fort. Par exemple, si je suis pauvre, je peux revendiquer des aides publiques. À ce moment-là, vous rajoutez un troisième anneau qui va montrer que l'affichage, par exemple, l'acteur plus fort rend plus faible l'acteur faible, qui peut afficher plus fort sa faiblesse, ce qui va le rendre plus fort, etc. En fait, on est dans une bande de Möbius n-dimensionnelle. Mais la rhétorique, et je ne dis pas autre chose en disant ça que ce que j'ai dit au début, c'est-à-dire que la rhétorique conduit à réfléchir sur ce qu'on dit, et en réfléchissant à parler sur ce qu'on dit, à réfléchir sur ce qu'on a dit qu'on disait, donc on ne peut pas s'élever au-dessus de la mêlée rhétorique, on ne peut l'aborder qu'en étant dedans. Et ce point-là est tout à fait crucial. Mais pour l'instant, je vous propose simplement ces quelques repères. Eux, ils nous permettent de nous repérer dans les différentes postures théoriques qu'on a étudiées dans le cadre du module et dans les principales qu'on va discuter dans le cadre de RES. Par moment, il est intéressant de fonder une recherche sur l'idée que les épreuves de raison ne doivent pas être confondues avec les épreuves de force. C'est ce que nous proposent Boltonski et Thévenot. Par moment, il importe d'affirmer que les épreuves de raison et les épreuves de force ne peuvent pas s'affirmer étrangères l'une à l'autre. C'est ce que je vous propose ici. Et les différentes recherches ont à choisir entre des horizons. Par exemple, un horizon délibératif ou un horizon stratégique ou un horizon tracé par le principe d'innovation. Ça ne veut pas dire que les différents éléments ne sont pas pris en compte par chaque recherche, mais que chaque recherche a ponctué à originer son raisonnement en créant une dissymétrie entre ces différents principes. Finalement, la rhétorique, ou on pourrait dire le rhétorique, la dimension du rhétorique, c'est un opérateur qui est sur le fil des partages entre la force et la raison. La rhétorique, elle permet de faire rentrer la force dans les discussions, c'est le domaine de l'héristique, le débat contradictoire devant un public. La rhétorique, elle permet de faire rentrer la discussion dans la force, en agissant sur les autres par la parole plutôt que par le poing. Elle repose sur un travail permanent de décadrage et de recadrage. Donc c'est un opérateur des partages entre force et faiblesse, entre force et raison. Voilà, j'en viens à la conclusion. Il n'y a qu'un seul transparent. Ma conclusion, c'est qu'on peut ouvrir un espace ou rouvrir un espace autonome pour l'expression renouvelée des désirs de nature. Alors, j'ai mis les mots en couleur parce qu'ils ont quelque chose de provocateur et que quand j'ai fait passer un petit résumé de ce que j'allais dire à mes camarades, ils ont réagi en disant « Oula, 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 l'expression des désirs de nature, oula là, ça va être trop dur. » Donc, on va regarder comment chacun de ces mots flash et pourquoi il pose d'une certaine manière une question, une provocation ou une incitation à la discussion. Un espace autonome. Espace, ça veut dire qu'il y a au moins deux dimensions. Au moins deux dimensions, ça veut dire que il faut qu'on ait deux, au moins la possibilité d'avoir une logique environnementale d'un côté, par exemple, agricole de l'autre. Autonome, ça veut dire qu'il se donne ses propres lois. Il n'a pas à se justifier d'exister et d'avoir ses propres références par rapport à d'autres espaces. L'expression, ça flash, pourquoi ? Tout simplement parce que le concept d'expression est un peu suspect aujourd'hui, en ce sens que les théories de l'emploi du sens, elles nous disent, parler d'expression, c'est poser l'hypothèse que derrière ce que les gens disent, il y a un univers de réel qui serait plus réel que ce que disent les gens. Et ce qui critique dans cette idée d'expression, c'est l'idée que ça revient à dire qu'on sait déjà ce qui est vraiment important. Et en particulier, nous disent-ils, parler d'expression, ça voudrait dire qu'on sait déjà que ce qui compte, c'est les intérêts et les identités. Moi, je suis d'accord avec eux, c'est-à-dire que c'est vrai qu'il ne faut pas qu'on revienne sur une conception figée des intérêts et des identités, des logiques d'acteurs, etc. En revanche, ce qui me paraît important, c'est de revenir à la légitimité des désirs et des projets portés par les acteurs. Un désir, ça n'a rien de fixe. Un projet, c'est quelque chose qui s'inscrit dans une durée et qui permet de conserver son intégrité comme intervenant dans l'action tout en changeant d'identité et d'intérêt. Donc, dire que la parole exprime des souhaits irréductibles les uns aux autres, c'est reconnaître l'irréductibilité des désirs et des projets et le fait qu'on ne peut pas se contenter d'examiner ce sur quoi les gens se sont mis verbalement d'accord. Le travail de renouvellement, c'est pas moi qui l'ai fait. Vous remarquez que je n'ai pas dit quels devaient être ces désirs, comment ils devaient se réorganiser ou s'exprimer. Je pense que c'est un travail qui est devant les acteurs du champ de l'environnement. C'est vrai que ça vaudrait le coup maintenant de discuter avec les associations environnementalistes pour voir comment elles peuvent reconstruire un espace de parole autonome et surtout un discours autonome pour faire progresser le débat au-delà de l'impasse dans laquelle il est aujourd'hui. Donc les désirs, j'en ai déjà parlé. Et enfin, la nature. On a eu droit depuis quelques années au coup de boutoir de Latour et d'autres qui nous disent qu'il n'y a pas de nature, la nature n'existe pas. Alors dans la version humanisme anti-environnemental, c'est « il n'y a plus de nature, c'est la nature contre l'homme, etc. » Moi, je propose de faire litière de toute cette logorée sur la nature. Prenons des gens, par exemple, qui s'intéressent à la protection sociale, qui disent « nous, on tient à ce qu'il existe un système de protection sociale ». Imaginons qu'on leur réponde « social ». Pourquoi social ? Mais le capitalisme, il est social. Le PDG de Coca-Cola et le conseil d'administration de Coca-Cola, c'est pas moins social qu'un atelier. Donc on est dans la société, c'est tout du social. Protection. Comment vous voulez ? Qu'est-ce que vous voulez faire là ? Vous voulez protéger la société contre la société. Mais ça ne tient pas la route. Ce dont il s'agit, c'est des entités humaines et non humaines, des machines, des ouvriers, des dollars, des patrons qui doivent se composer et se recomposer. Donc votre histoire de protection sociale, c'est de la connerie. Est-ce qu'on est obligé d'entendre ce discours comme ça ? Ben non. Non, ça ne veut pas dire que la mise en cause de la conception de la nature ne laisse pas de traces. Ça veut dire qu'on ne peut pas défendre la nature comme si elle était naturelle et le reste pas naturel, etc. Mais de là à interdire de ponctuer son propre désir en choisissant des mots pour le dire, tous les mots sont appropriés par un peu tout le monde. Là, il y a un abus, et cet abus, lui aussi, il est fondateur d'un malentendu. Donc il me paraît important, pour conclure, de réouvrir des dimensions de travail en formation et en recherche sur la rhétorique. Il faut faire en sorte que l'inondation de la rhétorique humaniste dans notre domaine qui nous encombre et nous noie progressivement rentre dans son lit. comment dire, cet humanisme est l'expression d'un agrocentrisme. Ce qui compte, c'est de voir qu'il y a une place importante prise par les filières agricoles au sens large et qu'il faut réouvrir à l'espace de discussion dans des conditions telles qu'elles ne puissent pas être conçues comme les seules parties prenantes du débat. Et puis, évidemment, ça ouvre un certain nombre de pistes pour la suite de la discussion reste sur l'intervenance, puisque parler sur la rhétorique, c'est encore rhétoriser, et rhétoriser, c'est théoriser. Peut-être que théoriser, c'est en tout cas rhétoriser. Et donc, on va pouvoir continuer à partir de ça, nos discussions sur la manière dont s'entrelacent les optiques stratégiques et les optiques du sens et de la délibération. Et donc ça nous envoie aussi sur les futures directions de travail théorique de RES.